Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h au sommaire aujourd'hui. Arrêter des matchs de foot en cas de cris racistes, oui. En cas de chant homophobe, non. Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Foot, dénonce la grande mesure prise contre les cris homophobes depuis le début de la saison. Furie d'un des seuls grands joueurs à avoir fait son coming out, Olivier Rouillet.
Je suis scandalisé de pouvoir entendre un président de Fédération Française dire que quand il y a des chants homophobes, on n'arrête pas un match, mais quand il y a des chants racistes, on arrête un match. Donc il fait la différence entre l'homophobie et le racisme, c'est scandaleux.
Le débat au début de ce journal. Le gouvernement va-t-il vers une reconnaissance automatique de la filiation des enfants nés de mères porteuses? Une circulaire est en préparation. Le pouvoir attend une décision de la Cour de cassation, nous expliquera Jean-Philippe Deniaud. Ça ne suffit pas, les mesures annoncées hier par Agnès Buzyn pour les services d'urgence des hôpitaux ne calment pas la colère. Nous irons à l'Assemblée générale des grévistes. Qui seront les hommes et femmes aux manettes en Europe dans les années à venir? La Commission européenne à Bruxelles. Présentée ce matin. Bonjour Angélique Bouin.
Bonjour.
Vous allez nous détailler tout cela, Angélique. Un avant-goût, quel poste pour la française, Sylvie Goulard?
Un portefeuille très large, hein, le marché intérieur qui englobe la politique industrielle, le marché unique numérique, la défense et l'espace. Un portefeuille essentiel et central, vient de dire l'Élysée.
À tout à l'heure pour le reste de la photo. Les enseignants français sont moins bien payés que leurs collègues à pays comparables. Une nouvelle étude le confirme. 50 ministres de la justice américains contre Google aux États-Unis. Presque tous les États lancent une enquête sur les pratiques anticoncurrentielles de la firme Omar Waman nous racontera. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
À 13h30, la Terre au carré, quel invité?
Que restera-t-il quand toutes nos forêts auront brûlé, je reçois le militant indonésien Iwan Asnawi qui publie L'Esprit de la Jungle. Il a été élevé dans la forêt, était le témoin de la déforestation et vous pouvez lui poser toutes vos questions dès maintenant.
Au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux, le mot-clé c'est l'attaque. Vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Comment lutter contre l'homophobie dans les stades? Le débat prend de l'ampleur et de la virulence. Depuis le début de la saison de championnat de France de foot, des matchs ont été interrompus par les arbitres pour faire cesser des chants ou cris homophobes en tribune. Est-ce le bon moyen de convaincre les supporters de foot de changer d'attitude? La réponse claire et nette du président de la Fédération Française de foot, Noël Le Graët.
J'arrêterai pas les matchs. Le football reçoit tout le monde. Toutes les classes sociales, tous les joueurs qui veulent ou joueuses qui acceptent de jouer au ballon sont parfaitement bien reçus dans nos clubs et dans nos stades. Je suis contre totalement, mais je ne veux pas être pris en otage sur l'homophobie. Il n'y a pas d'omerta, il y a une volonté farouche de faire en sorte effectivement qu'on puisse être sur un stade de façon très digne et tout à fait amicale et en famille. Mais l'arrêt des matchs ne m'intéresse pas. J'arrêterai un match pour des cris racistes, ça c'est clair. Pour une bagarre, pour des incidents, si il y a un danger quelque part dans les tribunes.
On attend deux réactions avec impatience, celle de la présidente de la Ligue de football qui organise le championnat et de la ministre des Sports. Les deux ont fait de la lutte contre les chants homophobes la mesure de l'année. Déjà furieux, l'ancien footballeur international, le seul joueur français à avoir fait son coming out, Olivier Rouillet. D'habitude, le garçon est affable. Là, ce n'est pas le cas du tout.
Je suis scandalisé de pouvoir entendre un président de Fédération Française dire que quand il y a des chants homophobes, on n'arrête pas un match, mais quand il y a des chants racistes, on arrête un match. Donc, il fait la différence entre l'homophobie et le racisme. C'est scandaleux. C'est insupportable d'entendre ça. Un président de la Fédération Française qui se permet de dire ça, c'est qu'il n'a absolument rien compris. C'est terrible. C'est terrible. Moi, j'ai l'impression d'être à l'âge préhistorique quand j'entends ça. Je suis scandalisé. Je peux pas comprendre comment un président puisse avoir des propos de telle sorte. C'est pas possible.
Un débat arbitré par nos collègues de France Info, le foot, question de société et de diplomatie. Un match n'a jamais eu lieu pour l'instant. Algérie-France en Algérie. Eh bien, c'est une information de Bruno Salomon pour France Inter et Radio France. La fédération algérienne a lancé une invitation aux Bleus pour un match amical en octobre 2020. Il pourrait avoir lieu à Oran. Les discussions commencent. Et là, le président de la fédération française est pour. Il est temps de jouer ce match 60 ans après l'indépendance de l'Algérie. Son état de santé suscite énormément de questions depuis 6 ans. Michael Schumacher, le septuple champion du monde de Formule 1, est bien hospitalisé à Paris, hôpital Georges Pompidou. Comme l'affirmaient ce matin nos confrères du Parisien. C'est la troisième fois qu'il est hospitalisé à Paris, nous précise Daniel Messager, spécialiste santé de France Inter. Il a été admis dans le service du professeur Ménaché, chirurgien cardiaque, spécialiste de la thérapie cellulaire pour soigner l'insuffisance cardiaque. Dans quel état se trouve l'ancien pilote? Mystère total depuis cet accident de ski le 29 décembre 2013 à Miribel. Le gouvernement de l'Europe se met en place. Quelles femmes, quels hommes, à quel poste? La nouvelle Commission européenne a été présentée ce matin par sa présidente, l'Allemagne. allemande Ursula von der Leyen. Les postes clés dans un instant avec Angélique Boin. D'abord la philosophie générale. Madame von der Leyen, la nouvelle patronne à Bruxelles.
Today I'm presenting my team for Europe.
Je présente aujourd'hui mon équipe pour l'Europe. Une équipe forte et talentueuse, constituée d'hommes et de femmes qui viennent du Sud, du Nord, de l'Est et de l'Ouest. Une équipe qui est équilibrée et qui mêle des expériences et compétences diverses. Je veux une commission dirigée avec détermination, qui se concentre sur les sujets essentiels et qui apporte des réponses. Je veux diriger un collège de commissaires qui sont investis, qui comprennent l'Europe, qui écoutent ce que veulent les Européens. C'est pour cela que je souhaite, par exemple, que tous les commissaires visitent chaque État membre dans la première moitié de notre mandat.
In the first half of our mandate.
Voilà pour le discours politique. Comme promis, Angélique Boin, on vous retrouve à Bruxelles. 26 postes au sein de la Commission, autant de pays européens incarnés, mais il y a des sièges plus importants que d'autres. Commençons par la française, le portefeuille donc dont hérite Sylvie Goulard.
Oui, elle hérite du marché intérieur, mais ça englobe aussi la politique industrielle, le marché unique numérique, ainsi que l'industrie de la défense et l'espace. C'est un portefeuille vraiment très large, hein. Sylvie Goulard, ancienne eurodéputée, sera donc en charge notamment de la libre circulation des biens et des personnes, avec la perspective du Brexit à gérer. Dans le cadre de cette stratégie industrielle nouvelle que porte aussi la France, elle aura le dossier des normes. Et puis la défense est un secteur clé pour l'Élysée. Comme cela avait été décidé par les dirigeants européens lors de sa nomination, Ursula von der Leyen, issue de la droite, va partager également son pouvoir avec plusieurs vice-présidents particulièrement puissants. Deux commissaires sortants, le socialiste néerlandais Frans Timmermans qui lui hérite du climat dont elle fait une priorité. Et puis la libérale danoise Margrethe Vestager qui garde la concurrence mais qui prend en charge le dossier du numérique. Hein, une autre priorité très marquée de la future présidente. L'Italie, vous le savez, malade de ses finances mais de retour dans le giron européen se voit attribuer un portefeuille influent. L'économie, c'est un vrai signal politique envers ce gouvernement qui ne cède pas aux populistes. L'Autrichien s'occupera, lui, du budget. L'Irlandais, Philogan, du commerce. Là aussi, avec le Brexit, c'est important. Et puis, la Pologne hérite de l'agriculture. Et c'était déjà annoncé, c'est un Espagnol, un Josep Borrell, qui incarnera la diplomatie européenne. Ces commissaires seront auditionnés, attention, et devront être adoubés par le Parlement avant leur possible donc prise de fonction le 1er novembre prochain.
Merci Angélique Boin pour la photo en direct de Bruxelles. Un couple, qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel, a recours à une mère porteuse, la GPA, pour avoir un enfant. L'enfant arrive en France. Qui sont ses parents? Eh bien, la règle aujourd'hui, c'est que seul l'homme qui a donné son sperme, s'il y en a un dans le couple, est le père. L'autre membre du couple doit passer par une adoption pour être reconnu comme parent. La France a été sanctionnée par la Cour de justice européenne pour cela, car des enfants, au fond, vivent en France dans une zone grise, sans parents au regard de l'état civil. C'est un dilemme pour le gouvernement. Comment sortir de l'impasse sans reconnaître officiellement les mères porteuses? Bonjour Jean-Philippe Degnaud.
Bonjour Bruno.
Une circulaire, Jean-Philippe, est en préparation pour clarifier les choses. Alors, est-ce qu'elle prévoit la reconnaissance automatique de la filiation, ce qui serait un pas vers une reconnaissance de la GPA, ou bien est-ce qu'elle vise à faciliter les démarches d'adoption?
Alors, déjà, pour bien comprendre, il ne faut pas se focaliser sur cette circulaire. Oui, une circulaire est bien en préparation, confirme le ministère de la Justice, mais une circulaire ne se contente que de rappeler le droit, elle n'est pas rédigée pour le modifier. Alors que contiendra-t-elle? Elle indiquera l'état du droit qui va être examiné par la Cour de cassation dans l'affaire du couple Menson, les parents de deux filles nées de GPA à l'étranger, comme c'est aujourd'hui le cas pour 200 enfants chaque année. Au printemps dernier, la Cour européenne des droits de l'homme, vous l'avez dit, avait estimé que la filiation devait être reconnue pour la mère d'intention, sans pour autant imposer aux États membres la retranscription de ce lien à l'état civil sur les actes de naissance. La Cour de cassation va donc enrichir sa réflexion avec cette décision de la CEDH. Elle peut rendre un arrêt conforme aux préconisations européennes, mais elle peut aussi, ce que l'on appelle, résister en refusant la filiation. L'affaire Menson sera examinée la semaine prochaine devant la plus haute juridiction française. La décision sera rendue quelques jours plus tard et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on connaîtra le contenu de la fameuse circulaire en préparation.
Alors que par ailleurs, on débattra de la PMA, ce qui est un sujet différent à l'Assemblée. Raté, le plan présenté hier par Agnès Buzyn n'apaise en rien la colère des grévistes des urgences. Trois mois temps à que le mouvement prenne l'ampleur. Une assemblée générale du collectif Interurgence se tient en ce moment même à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Bonjour Lisa Guyenne.
Bonjour Bruno.
Vous êtes en direct avec les moyens techniques d'Olivia Branger. Alors avant d'entendre les échos de cette assemblée générale, rappel des propositions de la ministre hier. 750 millions d'euros, comment désengorger les urgences, trois grandes réponses. La création d'ici à l'été prochain d'une plateforme téléphonique pour orienter les patients, soit vers les urgences, soit vers la médecine de ville. Les médecins libéraux devront proposer davantage de consultations sans rendez-vous pour répondre aux petites urgences. Lorsqu'ils seront de garde, ils devront appliquer le tiers payant. Et puis les médecins de ville, toujours eux, mais aussi les kinés, les infirmiers et les pharmaciens pourront pratiquer davantage d'examens et de gestes simples. Eh bien, question simple, Lisa, est-ce que cela suffit à apaiser la colère? Réponse non, j'ai bien compris.
Oui, et d'ailleurs, les grévistes ont commencé par une action choc. Une dizaine d'entre eux se sont allongés dans des sacs mortuaires, visuel très symbolique de la situation des urgences. Et les 12 mesures annoncées hier par la ministre n'ont pas changé la donne pour Corinne, aide-soignante à Paris.
12 annonces, mais 12 qui sont pas dans la réalité, quoi. Elle nous a pas entendu.
Même désillusion chez Florian Vivrel du syndicat des médecins urgentistes en Loire-Atlantique.
L'impression vraiment de noyer le poisson et de pas répondre aux attentes et puis surtout de faire de la stratégie d'annonce de communication, parce que quand on reprend les annonces dans le détail, soit ça existe déjà, soit c'est déjà en projet. Nous, nos revendications, elles sont très claires. Ce qu'on attend, c'est des ouvertures de lits, des créations de postes et des revalorisations salariales. À aucun moment, elle apporte une réponse.
Pour autant, il faut quand même noter quelques avancées, même si elles ne sont pas jugées suffisantes. Hugo Huon est l'un des porte-parole du collectif Interurgence.
Il va falloir un peu de temps pour évaluer ce que le dispositif qu'elle propose, qui est en fait remettre une permanence des soins, ça peut être bon, tout n'est pas à jeter, ça c'est clair. Mais on regrette encore une fois qu'elle ne mise pas sur l'humain et sur ce qui fait les compétences hospitalières.
Tous les représentants régionaux de l'interurgence sont réunis ici à Saint-Denis pour une assemblée générale qui doit durer tout l'après-midi.
Lisa Guyenne en direct de Saint-Denis, un des arguments avancés par les grévistes, on l'entendait, hein, est-ce que les 750 millions sont une enveloppe supplémentaire ou de l'argent qui était de toute façon fléché vers d'autres services et activités au sein de l'hôpital? Pas de réponse de Bercy pour l'instant sur ce sujet. Bonjour Daniel Messager.
Bonjour Bruno.
Votre chronique santé chaque mardi dans ce journal de 13h. Alors une des philosophies du plan Buzyn, c'est plus de dialogue entre les différentes professions de santé, mieux impliquer les professionnels autres que les médecins, faciliter ce dialogue. Notamment pour mieux orienter les personnes âgées. Ce qu'il faut dire, Daniel, c'est l'objet de votre chronique, c'est qu'avant même les annonces de la ministre, les bonnes pratiques sur ce thème existent déjà ici ou là.
Oui, alors prenons les infirmiers libéraux. Ils sont 120 000 en France, un véritable lien avec tous les professionnels de santé. Et voilà quand ça se passe bien, comment on peut éviter qu'une personne âgée ne se retrouve aux urgences? C'est l'expérience de Gilles Cholet. Il est infirmier libéral à Marne-la-Vallée. Une situation vécue la semaine dernière avec un patient de 85 ans.
J'interviens pour un soin, je constate un état général assez dégradé. Il suffit de passer un coup de fil au médecin généraliste en lui expliquant les symptômes et les signes que j'observe au domicile du patient. Immédiatement, le médecin prend quelques minutes pour me faxer via la messagerie sécurisée de MS Santé une ordonnance pour faire un bilan biologique à domicile. Je fais le bilan biologique. Il est déposé au laboratoire dans l'heure qui suit. On constate une déshydratation qu'on peut corriger très facilement et très rapidement par la mise en place d'une perfusion sous-cutanée. Très rapidement, par un simple coup de fil auprès du pharmacien, on organise la prise en charge de la perfusion et on évite comme ça un passage inutile aux urgences, puisque 48 heures plus tard, un patient âgé de 85 ans avec des troubles cognitifs, avec en état de déshydratation, il était quasi certain qu'il serait hospitalisé.
Bon, là tout se passe bien, c'est le cas d'école parfait.
Oui, c'est une situation idéale. Alors parfois on ne va pas réussir à joindre le médecin, ce sera plus compliqué de tout mettre en place, mais s'appuyer sur le paramédical peut grandement faciliter la prise en charge. Et cette messagerie sécurisée dont Gilles Cholet parlait, tous les ordres y sont abonnés, médecins, kinés, pharmaciens. Et c'est l'infirmier qui, lui, voit le malade à domicile qui est au cœur du système.
Nous sommes dans bien des régions le dernier maillon du soin qui se déplace à domicile. Les médecins généralistes étant pour la plupart complètement surbookés dans leur cabinet, effectuent très très peu de visites. En France, il y a 120 000 praticiens infirmiers libéraux qui exercent, qui maillent le territoire avec beaucoup de proximité et de réactivité. La ressource existante, humaine, et sur lesquels il peut être intéressant de retravailler avant de chercher à réinventer encore une fois un système et à reproposer des solutions qui ne tiennent absolument pas compte du maillage déjà disponible.
Alors Agnès Buzyn souhaite quand même impliquer davantage les paramédicaux et les soins de ville en général. Sortir en tout cas du « tout se passe à l'hôpital », c'est un vœu qu'il faudra bien finir par réaliser, car l'hôpital est bien en train d'exploser de cette hyper-concentration.
Merci Daniel Messager, votre chronique est à réécouter sur franceinter.fr. Il y a un an, le gouvernement lançait son plan de lutte contre la pauvreté. Trois grands axes. Un meilleur accompagnement des bénéficiaires du RSA, le revenu universel d'activité, le lancement au moins du principe, la fusion des minima sociaux, et puis l'accent mis sur la petite enfance. Où en est-on un an après? Bonjour Véronique Fayet.
Bonjour.
Présidente du Secours catholique, merci de venir dans les studios de France Inter. Ce qu'il faut préciser, on ne parle pas vraiment encore de bilan, les choses se lancent petit à petit, c'est ça hein?
Oui, c'est toute la difficulté de l'exercice aujourd'hui, c'est qu'on est à un an des annonces qu'on avait saluées et qui nous paraissaient aller dans le bon sens, mais qui tardent à se mettre en œuvre. Parce que, par exemple, la politique sociale est très décentralisée en France. Ça dépend des départements, ça dépend des communes. Donc, par exemple, une très belle annonce qui consistait à dire il faut que les enfants des familles pauvres puissent avoir accès à la cantine, à un repas à 1 euro maximum, avec un bonus de l'État. Eh bien, ça demande du temps, parce qu'il faut aller contacter commune par commune, il faut que les communes s'organisent. Donc voilà, aujourd'hui, on ne sait pas encore combien de communes ont mis en place la mesure. On avait aussi une très belle mesure qui est l'obligation de formation pour tous les jeunes de moins de 18 ans, afin que s'ils sont sortis de l'école, ils restent pas à traîner et à se désinsérer. Donc ça, c'est magnifique, mais ça demande beaucoup d'organisation et donc ça ne sera applicable qu'en septembre 2020.
Donc les mesures tardent à être mises en place, non pas forcément par manque de volonté, mais parce que techniquement, c'est long à mettre en place.
Voilà, parce que donc il y avait des préalables, la délégation interministérielle à la stratégie de lutte contre la pauvreté a déployé beaucoup d'énergie, par exemple, pour rencontrer les départements de France un par un. Ouais. Et je crois qu'aujourd'hui, il y en a à peu près 90 qui ont signé un contrat avec l'État. Donc voilà, tout ça est en place, tout ça se met en place. Mais ce qu'on dit aujourd'hui, nous, c'est qu'il n'y a rien de visible pour les familles les plus pauvres. Au contraire, elles ont perdu de l'argent parce que, par exemple, les allocations familiales et les allocations logement ont été désindexées par rapport à l'inflation.
Oui.
Donc elles augmentent moins que l'inflation. Donc très concrètement, une famille modeste, voire très modeste, perd 8, 10, 15 euros par mois. Donc sur des tout petits budgets,
c'est très
beaucoup.
Important.
Donc ces familles très pauvres ont perdu finalement depuis un an, alors que d'autres ont bénéficié de mesures intéressantes, la prime d'activité, des baisses d'impôts et de fiscalité pour les classes moyennes. Voilà. Donc il y a beaucoup de classes...
Les mesures pauvreté tardent à se mettre en place. En revanche, d'autres mesures affectent le budget des personnes les plus pauvres. C'est ça que vous nous dites.
Voilà. Et puis, il y a du coup un manque de cohérence. Par exemple, on est extrêmement inquiet de la réforme de l'assurance chômage.
Oui.
La réforme de l'assurance chômage va sans doute faire basculer des milliers de personnes du régime d'assurance chômage au régime des minima sociaux, c'est-à-dire au RSA. Et pour les jeunes, d'ailleurs, ça va basculer dans rien du tout, puisque vous savez qu'il faut avoir cotisé non plus 4 mois dans les 28 derniers mois, mais 6 mois dans les 24 derniers mois. Donc, c'est une mesure qui, en soi, peut paraître bonne, de bonne gestion pour l'UNEDIC, voilà. Mais les conséquences sont désastreuses, notamment pour des jeunes qui, du coup, seront sans ressources, puisque parallèlement, la négociation sur le revenu universel d'activité, qui est un élément phare de la stratégie de lutte contre la pauvreté,
les négociations
ne font que commencer. Il y a un travail intéressant qui se fait, c'est très compliqué. Ça ne sera applicable qu'en 2023.
Ouais.
Donc d'ici là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une ouverture très claire.
Et alors, que répondez-vous à cela? D'ici là, qu'est-ce qu'on fait?
Mais alors, d'ici là, ce qu'on demande, par exemple, très 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 rapidement, c'est de réindexer les allocations logement et les allocations familiales sur l'inflation, c'est à minima. Ce qu'on demande aussi, c'est d'augmenter les minima sociaux, notamment le RSA qui est autour de 500 euros. Donc ça, c'est pas digne. Les gens ne vivent pas avec 500 euros, c'est pas possible. Voilà. Donc, qui est un rattrapage, puisque quand le RMI avait été créé par Michel Rocard en 88, c'était la moitié du SMIC net. C'était une bonne échelle, un bon indicateur. Là, on est en dessous de 40% du SMIC net. Donc, un rattrapage immédiat dès le projet de loi de finances 2020, par exemple, consisterait à monter le RSA autour de 490 euros.
Vous avez espoir d'obtenir gain de cause sur ce sujet-là? Vous avez...
Pour l'instant, c'est mal parti. Bon. On est assez... je pense qu'il y a une opposition. Le président de la République est persuadé, et ma foi, on ne peut pas lui reprocher, que sa politique de formation, d'activation, de retour à l'emploi va marcher. Et donc, c'est comme ça qu'on va sortir de la pauvreté. Voilà. Nous, on dit que dans l'entretemps, il y a peut-être des mesures intermédiaires à prendre.
Et ce que vous dites aussi, vous, association, c'est qu'au fond, la philosophie du président de la République, c'est la sortie de la pauvreté passe essentiellement par le travail. Et ce que vous dites, vous, c'est ça ne fait pas tout. Il y a des mesures à prendre en dehors de retrouver un emploi ou faciliter une reprise d'emploi.
Voilà, il y a des situations qui parfois sont compliquées. Alors, on est absolument d'accord sur l'idée que ce que demandent les gens, et on les rencontre tous les jours, les gens en situation de pauvreté, ils n'ont qu'une idée, c'est de travailler pour être comme tout le monde. Oui. Seulement, ils ont parfois un emploi à temps partiel. Alors, c'est déjà un emploi, c'est déjà bien, mais c'est un emploi à temps partiel, c'est un emploi précaire. Et par exemple, pour la prime d'activité, ceux qui ont un emploi inférieur à la moitié du SMIC, c'est-à-dire souvent des femmes qui sont aides-ménagères, qui sont femmes de ménage, eux, ils n'ont pas eu le droit à une revalorisation de la prime d'activité. Donc les plus pauvres sont souvent plus pénalisés que les autres. Mais nous, sur la philosophie de l'accès à l'emploi, on est tout à fait d'accord. Mais il vous a pas échappé que pour l'instant, il n'y a pas d'emploi pour tout le monde et qu'il y a encore un petit chemin à faire pour que globalement la société se transforme suffisamment pour créer de l'emploi en nombre suffisant, y compris pour ceux qui sont aujourd'hui privés d'emploi depuis très longtemps et pour qui c'est une très grande souffrance.
Un des axes de ce plan, vous en disiez un mot tout à l'heure, c'était éviter les sorties sèches de l'aide sociale à l'enfant à 18 ans en particulier. Est-ce qu'on progresse là-dessus?
Alors là, on a un petit peu un rendez-vous manqué aussi.
Ces ados
aussi.
Qui passent de tout à rien, en quelque sorte.
Oui, on a un rendez-vous manqué. C'était vraiment une idée forte que Madame Buzyn portait avec beaucoup de volonté. Sauf que au moment du vote de la loi au Parlement, il y a eu un amendement gouvernemental, donc venant du gouvernement, qui au fond a transformé les choses et en a fait une option. Et non pas une obligation. C'est-à-dire que les départements, puisque ça dépend des départements, là aussi, l'aide sociale à l'enfance, ont la possibilité, sont fortement incités à ne pas laisser les jeunes dans la rue à 18 ans, mais à les accompagner jusqu'à 21 ans. Ben, ce n'est plus une obligation, ce n'est plus qu'une option, et donc ça affaiblit beaucoup le dispositif.
Merci Véronique Fayet d'être venue dans les studios de France Inter répondre à nos questions, et merci à Claire Chaudière qui m'a aidé à préparer cet entretien. Et bonjour à Sonia Princey.
Bonjour.
Quels sont les atouts et les faiblesses de notre système éducatif? Question clé. Et l'OCDE publie une étude qui compare les mérites et faiblesses du système français au regard d'autres pays comparables. Question clé, en particulier le revenu et le salaire des enseignants. Sonia, commençons par là.
Oui, ce rapport confirme que les salaires sont moins élevés pour les professeurs de primaire que pour ceux des collèges et lycées, car dans le second degré, les enseignants peuvent faire des heures supplémentaires, ils ont davantage de primes. Mais particularité en France, ce sont surtout les professeurs en milieu de carrière qui sont pénalisés, comme le précise Éric Charbonnier, expert de l'OCDE sur les questions d'éducation.
Un enseignant de l'école élémentaire gagne 7% de moins en France quand il débute dans la carrière. Par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE, il gagne plus de 20% de moins que la moyenne des pays de l'OCDE quand il a 10 ans d'expérience. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on dit il faut revaloriser les enseignants, la recommandation, c'est il faut réfléchir aussi en priorité à ceux qui sont en milieu de carrière. Ce sont ceux qui sont le plus pénalisés. En France, on a tendance à stagner pendant les premières années, ce qui peut démotiver les enseignants et ce qui peut les décourager de rester dans cette profession.
Autre point du rapport, plus positif cette fois, le succès des filières courtes en France à Bac plus 2. 60% des étudiants en BTS ou DUT obtiennent leur diplôme dans les délais, c'est-à-dire en 2 ans, alors qu'ils ne sont que 39% à obtenir une licence à l'université en 3 ans. Et à la sortie, 85% des Bac plus 2 trouvent un emploi. Alors une fois n'est pas coutume, la France pourrait devenir un modèle en la matière pour ses voisins européens. L'Italie, par exemple, qui cherche à réformer son enseignement supérieur, réfléchit à copier ces filières courtes à la française.
Sonia Princey en direct de l'OCDE avec Frédéric Kérou pour les moyens techniques. C'est du jamais vu aux États-Unis. Presque tous les États américains lancent une enquête contre Google, les procureurs ont sonné l'offensive hier, symboliquement en s'adressant à la presse devant la Cour suprême à Washington. Question, Omar Waman, maintenant, est-ce que Google empêche des concurrents d'émerger sur le marché de la publicité? C'est tout le sens de cette enquête, Omar.
Oui, dans le collimateur, effectivement, le géant du numérique Google, on l'entend, conférence de presse très solennelle, un signe de la gravité de l'affaire. Google accusé de concurrence déloyale. Et le premier à prendre la parole, Ken Paxton, procureur général de l'État du Texas.
De nombreux consommateurs pensent qu'Internet est gratuit, mais au regard du chiffre d'affaires réalisé par Google, qui est de l'ordre de 117 milliards de dollars, on peut dire que ce n'est pas le cas. Google est une entreprise qui domine de nombreux marchés, de la publicité en passant par la recherche en ligne. Il s'agit d'une enquête pour déterminer les faits.
It is an investigation to determine the facts.
Alors Google, au cœur de cette enquête, le géant du numérique contrôle 92% des recherches en ligne et capte plus de 30% de la publicité sur Internet. L'action des procureurs venus des quatre coins des États-Unis se veut collective et bipartisane du jamais vu, selon Alain Bensoussan, spécialiste du droit du numérique.
Oui, c'est inédit à ce niveau d'ampleur, et puis c'est assez inédit pour les États-Unis. Il est évident qu'aujourd'hui, les algorithmes et les données personnelles constituent une utilisation qui est parfois liberticide.
Et à l'approche des élections présidentielles de 2020, le sujet est devenu très politique aux États-Unis où les affaires se multiplient. L'été dernier, c'est Facebook, le réseau social qui a été condamné à une amende record de 5 milliards de dollars pour ne pas avoir protégé les données personnelles de ses utilisateurs.
Merci Omar Waman. Un tour dans le Doubs pour finir ce journal et faire plaisir aux amateurs de fromage. Les règles des appellations d'origine protégée fixent parfois des dates pour la vente de fromage. Eh bien, pour le Mont-d'Or, c'est à partir d'aujourd'hui. Et oui, c'est un produit saisonnier. En vente jusqu'au 10 mai, vous avez tout de même le temps. La fabrication a commencé il y a un petit mois, autour du 15 août. Visite, nous allons dans la commune des Fours, à la fruitière Le Toit du Doubs, où on a gagné un peu de place. Christophe May.
Oui, ils étaient trop à l'étroit dans l'ancienne fromagerie au centre des Fours, d'autant que le Mont-d'Or nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Antonio Pala Santos, le chef fromager.
C'est un fromage qui demande beaucoup de travail, quoi. Il y a des gens qui disent que le fromage est cher, quoi, mais quand on regarde le nombre de personnes qu'il nous faut pour travailler le même litrage qu'on comptait, c'est hallucinant, quoi.
Là où 2-3 personnes suffisent pour faire du comté, ils sont une quinzaine à pied d'œuvre depuis le 15 août dans un atelier de 1500 m². 3000 monts d'or sont fabriqués en moyenne tous les jours. Malgré les machines dernier cri, la fabrication reste artisanale. Le président de la fruitière, Franck Bultiuro.
Tout le frottage, la mise en boîte, le filmage, tout est manuel quand même si on est aidé par des machines. Mais il est très important de garder ce caractère artisanal, surtout sur un fromage comme le Mont d'Or. Le bois et le lait.
Ce contact quotidien avec le produit, c'est ce qui plaît à Antonio, le chef fromager.
On suit le fromage de A à Z, fabrication, affinage, on suit vraiment notre produit. Tandis qu'un comté, on le fait, après il part à l'affinage, donc on n'a pas ce contact tous les jours avec ce type de fromage.
4,5 millions de litres de lait cru sont transformés tous les ans par la fromagerie des Fours, moitié en comté, moitié en mont d'or.
Allez, dans le Doubs et ailleurs, quel temps!
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va?
Elodie Calac.
Du Languedoc-Roussillon au sud des Alpes, on a du vent, de bonnes pluies, des pluies plus soutenues et orageuses sur le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Var, un peu de neige vers 2000 mètres sur les Pyrénées, 2500 mètres sur les Alpes du Sud. Du sud-ouest au nord de Rhône-Alpes, quelques pluies. On trouve tout de même de belles éclaircies sur le nord de l'Aquitaine et en Corse. Les températures baissent, 16 degrés à Perpignan, 18 à Tarbes et à Marseille, 21 à Bordeaux, 22 à Lyon, 28 degrés tout de même à Ajaccio. En remontant vers le nord, c'est du soleil, juste quelques nuages sur le nord-est ou alors de l'intérieur de la Bretagne vers le nord de la Seine. Comptez 18 degrés à Brest, 21 à Metz, 22 à Lille, 23 degrés à Paris, Nantes et 24 à Bourges. Demain, pas mal de nuages au nord, du soleil au sud et des températures de saison.